Souvent, dans la jeunesse des films de Chabrol, elle suit souvent les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'un film naît au point de rencontre entre un texte littéraire et une idée de cinéma. La pensée de Chabrol et la manière dont il réalise ses films repose toujours sur cette dialectique entre un texte littéraire du film, c'est-à-dire le scénario, qui en constitue le squelette, souvent écrit par d'autres, des romanciers ou non, et de l'autre côté, une mise en scène, une mise en jeu, une mise en chair, une incarnation, autrement dit, de ce texte par la direction et le jeu des acteurs, qui est le fait de Chabrol. Concernant La fille coupée en deux, réalisée en 2007, ce squelette émane de sa première assistante Réa, Cécile Mestre, qui pour la première fois adapte pour Chabrol un fait divers, le meurtre d'un ancien amant par un mari jaloux, qui ne supporte plus le passé un peu sulfureux et amoureux de son épouse, et ceci dans le milieu mondain de la grande bourgeoisie. Le titre du film, La fille coupée en deux, concentre ce jeu dialectique entre le texte, les lettres et les images autour d'un personnage central, Gabrielle Deneige, interprétée par Ludivine Sagnier, dont l'être et le corps va être soumis à une emprise du littéraire, au sens large de milieu et culture littéraire et de langage qui se fige dans l'écrit. À travers le récit de ce fait divers et sa transposition filmique, c'est en effet, selon moi, cette dialectique fructueuse entre les lettres et les images que ce film raconte et dont je propose aujourd'hui de retracer la dimension allégorique. Les lettres constituent un cliché moral et social que le réalisateur vient habiter de ces images pour les libérer, les métamorphoser, les poétiser en alchimiste comme le magicien dans la scène finale éponyme, afin que la lettre, écrite ou orale, alphabétique ou épistolaire, symbole d'une morale et d'une culture souvent moribonde et maléfique chez Chabrol, devienne plurielle, s'incarne dans l'action, celle de l'éthique, plutôt qu'elle ne se fige dans les mots de la morale. La fille coupée en deux s'inspire certes, comme la plupart des films de Chabrol, d'un fait divers, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, mais la particularité vraiment de ce film est qu'il refonde et ancre pleinement cette histoire dans le domaine littéraire. Pour apprécier l'originalité de cet apport du littéraire, il faut revenir un peu sur le fait divers lui-même. Dans le fait divers, l'amant assassiné est un architecte américain du nom de Stanford White, qui est réputé pour être un grand coureur de jupons. Il était marié, mais cela ne l'empêche pas de séduire la danseuse de revue, Florence Evelyn Nesbitt, alors qu'elle n'avait que 16 ans, quand lui était âgé de 47 ans. Cette danseuse était d'une grande beauté, elle fut modèle et posa pour de nombreux artistes. Et quant à l'architecte, lui, il avait pour habitude d'amener ses conquêtes dans sa garçonnière, où il avait installé un certain nombre de miroirs placés à des endroits stratégiques, ainsi qu'une balançoire. Et ce dispositif, il en est fait mention dans le titre de l'adaptation de Fleischer, du même fait divers, La fille sur la balançoire. Alors on sait tout cela grâce aux détails qu'aurait apporté la danseuse à l'occasion du procès qui suivit le meurtre de l'architecte. Et la mère d'Evelyne avait encouragé la jeune fille dans cette relation parce qu'elle voulait autour de la jeune femme des hommes influents et riches. Et c'est la raison pour laquelle elle l'encouragea par la suite à aussi accepter, alors qu'elle n'avait que 20 ans et qu'elle s'était amourachée d'un jeune homme sans avenir selon sa mère, donc la proposition en mariage de Harry Kendall Saw, un riche baron du chemin de fer et du charbon. Alors l'homme était riche, mais il était drogué à la cocaïne, paranoïaque, il sortait jamais sans son arme. Il se montrait très possessif, voire sadique avec les femmes. Et il aurait eu, une fois marié, une curiosité malsaine et maladive pour les détails, la relation sexuelle entre sa femme et son ancien amant, qu'il surnommait la bête. Et un soir du 25 juin 1906, à l'occasion d'une représentation théâtrale, il aurait tiré trois fois à bout portant pendant la chanson « Je pourrais aimer un million de filles » en prononçant une phrase encore sujette à controverse qui serait « Tu as ruiné ma femme ». Alors pourquoi cet événement est resté dans l'histoire, dans les imaginaires et pourquoi elle a nourri un certain nombre de romanciers et de cinéastes? Eh bien, Roland Barthes en fournit une explication en établissant la structure du fait divers dans quelques pages des essais critiques donc de 1964. Le fait divers, selon lui, il diffère de l'information politique en ce qu'il est une structure fermée, dont l'information est totale et immanente. C'est-à-dire que le fait divers, il contient en lui-même tout son savoir, et contrairement à l'événement politique, il est insignifiant. Mais la manière dont on va le relater, eh bien, on nous invite et on essaye de rechercher ce qu'il signifie. De ce fait, Barthes souligne que sa structure se dédouble dans un rapport intérieur au récit qui en est fait. C'est-à-dire qu'un événement, comme par exemple un crime passionnel, s'érige en fait divers dans la mesure où le contenu de ce fait divers est aussi important que la manière dans laquelle il est relaté. Parce que la manière dont on va le raconter va venir troubler la relation de causalité inhérente au fait divers. Comme par exemple le rapport entre le délit et son mobile. À partir du moment où il y a un petit trouble, eh bien, le fait divers reste. Selon Barthes, écrire un fait divers, c'est s'en étonner. C'est vivifier le stéréotype par un événement inattendu qui va créer la surprise dans cette relation, ce que Barthes appelle le trouble de la causalité. Alors pourquoi cette causalité est troublée ? Soit parce que, par exemple, le meurtrier est un enfant, ou parce qu'il y a plusieurs intervenants, ou parce que dans les modalités du crime, il y a quelque chose qui est surprenant. De sorte que l'on se rend compte que la causalité, elle est partout et en même temps, elles sont toujours échappées. Alors il y a à cela un deuxième trouble qui s'ajoute, qui vient se combiner, qui est celui de l'incidence. Lorsque l'événement se répète ou bien se déroule dans un contexte peu propice à l'événement parce qu'il en constitue l'antithèse. C'est un peu le principe du comble. Par exemple, c'est le chef de police chargé de l'enquête qui s'avère être le criminel. Donc on a ici un trouble qui s'y ajoute. Alors je vais lire un passage, que c'est là-dessus que je vais construire mon exposé. Causalité aléatoire, coïncidence ordonnée, c'est à la jonction de ces deux mouvements que se constitue le fait divers. Tous deux finissent en effet par recouvrir une zone ambiguë où l'événement est pleinement vécu comme un signe dont le contenu est cependant incertain. Nous sommes ici, si l'on veut, non dans un monde du sens, mais dans un monde de la signification. Et par sens, Barthes entend le contenu, c'est-à-dire le signifié d'un système signifiant, tandis que par signification, il entend le procès systématique qui unit sens et une forme, un signifié et un signifiant. Et il poursuit ensuite en comparant ce statut avec celui de la littérature, parce que la littérature, c'est en quelque sorte aussi un ordre formel dans lequel le sens est à la fois posé et déçu, puisqu'on est toujours en recherche de ce sens. Alors c'est ce hiatus entre sens et signifiant mis en lumière par Barthes dans le fait divers qui m'intéresse ici parce qu'il caractérise aussi la manière dont Chabrol va traiter le motif des lettres dans ce film. Concernant tout d'abord la structure du fait divers au niveau scénaristique, le film de Chabrol, dont le goût pour les petites histoires de la haute bourgeoisie est avéré, reprend sa structure, même s'il le transpose un siècle plus tard. Car il raconte la même relation entre une très jeune femme et un notable artiste, plus âgé, et le crime passionnel en pleine soirée mondaine de l'ancien amant par le mari, lui aussi héritier d'une prestigieuse société industrielle, et ce pour des raisons similaires. Et le film, justement, retrace la relation de causalité entre le délit sur lequel s'achève le film et le mobile dont la signification nous est doublement donnée par le récit qui précède le meurtre et le procès qui s'ensuit. On retrouve de plus de nombreux détails de ce fait divers dans le film de Chabrol, avec parfois quelques glissements. Par exemple, cette dénomination de la bête qui intervient finalement dans la réplique finale. Mais si les précédentes adaptations filmique par Richard Fleischer en 1955, puis par Milos Forman en 1981 dans Ragtime, qui reprend lui-même un roman de Doctorow. Et si ces adaptations ont strictement respecté l'identité des personnages, la spécificité de Chabrol est de transposer le récit dans les milieux télévisuels et littéraires contemporains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce film, parce que le film double la structure propre aux faits divers d'un rapport problématique entre les lettres et les images. Chabrol, avec ce film, apporte lui aussi sa contribution à ce réseau de signification du fait divers, mais en maître de son art, il en reflète la structure par cette mise en scène des lettres qui entrent en conflit avec le visuel. Dans le film de Chabrol ainsi, l'architecte devient un écrivain à succès, Charles Saint-Denis, joué par François Berléand, qui partage sa vie entre l'écriture solitaire dans une somptueuse maison de campagne où il vit avec sa femme Donna, et la ville de Lyon, où il a un petit appartement qui lui sert de garçonnière, et où sa vie sociale est plus active, sous la direction de son éditrice croqueuse d'hommes, Capucine, interprétée par Mathilde Amet, il promeut son dernier roman, L'absence de Pénélope, sur les chaînes de télévision locales. Et dans les librairies, Dans les librairies que dirige la mère de Gabriel Deneige, qui n'est plus ni danseuse ni modèle, mais Miss Météo pour la télévision locale où se rend Charles pour promouvoir son film. Le monde des lettres constitue alors le décor crucial de ce fait divers. La première rencontre se fait sur le plateau de l'émission littéraire En toutes lettres, puis le premier rendez-vous est donné dans la librairie de sa mère. Comme dans le fait divers, c'est Marie, la mère, qui se fait l'entremetteuse des amours de sa fille, mais de manière involontaire. C'est dans sa librairie que se passent les rencontres, notamment avec Paul Gaudens, le fils héritier des laboratoires pharmaceutiques, interprété par Benoît Bagimel. C'est aussi sa mère qui va relancer les amours de Gabriel avec Paul. Alors, même si on retrouve le motif de la garçonnière dans le film, mais cette fois-ci, la garçonnière n'est pas peuplée de miroirs, mais de livres. Donc on a aussi cette transposition littéraire à ce niveau-là. Dans les films de Chabrol, la perversité du séducteur ne repose en effet pas dans un jeu de miroir pour voir sous les jupes des filles, mais dans son désir de soumettre par l'écrit le corps de la femme, ainsi que dans la manière dont il s'approprie et agence les mots pour cacher derrière eux sa véritable identité. Tous les personnages se définissent ainsi dans leur rapport au livre ou à la parole qui détermine ce qu'ils sont réellement. Même des personnages secondaires, comme la mère et les sœurs de Paul, manient les lettres d'un jeu de Scrabble à l'occasion de leur première apparition. Le journaliste de l'émission littéraire télévisée En toutes lettres, dans laquelle Charles Saint-Denis vient promouvoir son film, ne se donne même pas la peine de lire le moindre mot sur le contenu du livre qu'il jette d'emblée sur la table en proclamant « Si vous le permettez, nous ne parlerons plus de livre, mais de vous », établissant ainsi une équivalence entre l'homme et le livre, qui contribue aussi à renforcer l'aura et le mythe romantique de l'écrivain. Le monde de l'écrit provoque dans le film une reconnaissance sociale, quelle que soit la nature réelle de l'homme, quel que soit d'ailleurs le contenu, c'est-à-dire le sens de l'écrit, on ne saura jamais rien du contenu du livre. Et le style d'ailleurs que la mère libraire qualifie de convenu de l'écrivain suffit à lui assurer la notoriété, parce qu'il a le sens du récit. Tous les personnages se définissent ainsi socialement par la connaissance ou leur maîtrise de l'écrit, à commencer par le personnage de l'écrivain dont la représentation est doublement stéréotypée. L'écrivain derrière son bureau, entouré de livres, retranché dans la villa qui donne sur l'eau, ou bien à la Balzac, dans un appartement mansardé, au dernier étage d'un immeuble, derrière son ordinateur, à côté duquel trône, on ne sait pourquoi, sur le plan diégétique, une bougie. Cet ancrage du personnage dans le littéraire est renforcé par le nombre de citations d'autres écrivains nommés à l'occasion de chacune d'elles, qui tend à tracer une équivalence entre l'écrivain qui cite et l'écrivain cité. Montaigne sur le voyage, Jules Renard sur la vieillesse, ou Piron sur ses prétentions académiciennes déçues, et qui chacune vont renvoyer aussi à une réalité de la vie de Charles. Alors, il y a la séquence de rencontre des trois principaux protagonistes dans la librairie est sur ce point éclairante. Charles Saint-Denis et Gabriel se sont déjà croisés deux fois dans le film. Une première fois dans les loges de l'émission littéraire, qui constituait le milieu professionnel de Gabriel. Une seconde fois dans un bar tapissé de rouge, mais alors seul Charles dévore des yeux la jeune fille qui ne répond que par un furtif regard. Et cette séquence constitue la troisième rencontre dont Charles souligne la coïncidence. Elle lance l'intrigue du fait divers en marquant le début d'une relation, d'une double relation amoureuse autour de Gabriel, puisque elle rencontre aussi là Paul Gaudens. Alors, dans les trois moments de rencontre que Jean Rousset a compté dans la relation amoureuse, donc l'effet, l'échange et le franchissement qui correspond au moment où les futurs amants y rentrent en contact, cette séquence correspondrait à cette dernière étape, avec cette spécificité qui est pour moi signifiante dans le film de Chabrol, d'un échange toujours conventionnel qui précède l'effet, qui correspondrait cette fois à la scène du bar. Alors, le premier temps de cette séquence met en scène une première rencontre, celle entre Charles et Gabriel. Le plan général situe la séquence dans une célèbre librairie de Lyon, la librairie du Tramway, une librairie généraliste qui a coutume d'inviter les auteurs. Les premiers échanges entre Gabriel et Charles portent exclusivement sur le domaine des lettres. Gabriel souligne que Charles, une nouvelle fois, rentre sur son territoire, mais dans le cadre, cette fois, d'une filiation, puisque sa mère est libraire. Elle a ainsi vécu dans les livres, malgré elle, et son père lui a légué pour tout héritage le dictionnaire des citations. Et cette omniprésence des livres est confortée par le décor environnant. Les étagères des livres et les lecteurs entourent comme un cœur antique les deux personnages. Le premier échange tisse ainsi tout un réseau de significations communs entre Charles et Gabriel, le monde des livres et le goût des citations. Tout y compris le cadrage serré sur les futurs amants fonctionne comme un signe propitiatoire d'une relation amoureuse aboutie. Cette première scène est d'ailleurs suivie de l'invitation par l'intermédiaire d'un livre pour leur premier rendez-vous, qui est une vente aux enchères de livres. Dans un second temps, cette fois-ci, c'est le futur mari Paul Gaudens qui fait son entrée fracassante et tonitruante sur le fief de son rival marqué par le règne de l'écrit. Le premier plan général nous fait ressortir de la librairie, mais en changeant de point de vue, qui fait apparaître dans la profondeur de champ un bâtiment imposant qui jouxte la librairie, style art déco, sur le fronton duquel se lit en gros caractères « Bourse du travail ». Et cet écrit est rendu imposant par la légère contre-plongée et l'écrasement de la perspective. Tout rappelle la présence imposante de Charles qui joue le rôle de l'architecte dans le fait divers initial et qui travaille, lui, pour gagner sa vie quand Paul est rentier. À l'intérieur de la librairie, Paul Gaudens rencontre Gabriel dans un régime pour sa part exclusivement médiatique. Ici, les lecteurs qui se disposaient silencieusement en chœur autour des personnages commentent son arrivée et assistent à ce qui ressemble à un duel entre notables. Paul n'associe pas Gabriel à l'univers des lettres, mais à celui de la télévision et de la météo. Charles, de son côté, cantonne son adversaire à l'univers de la presse People, dans laquelle il a appris sa chute de cheval. En toute logique, Paul, qui rejette l'univers des lettres, ironise sur l'univers de papier de Charles, moribond et mensonger. Charles parle comme un livre. Mais Paul, les livres, non seulement il ne les ouvre pas, comme Gabriel, mais il les jette par deux fois sur la table, puis vers la caméra pour clore la séquence. Les livres sont en effet, selon lui et pour Chabrol aussi, des agents corrupteurs, en même temps qu'ils révèlent des situations. La lettre est en effet un cache pour le personnage, pour ce qu'il est, pour son sens, en même temps qu'il est un révélateur des situations, autrement dit des significations si l'on reprend le vocabulaire de Barthes. La lettre chez Chabrol est en effet suspecte. Elle est, pour reprendre les mots de Joël Mani dans son ouvrage sur le cinéaste, un agent corrupteur. Voilà, voici ce qu'il écrit. « Au Paul, écrit-il, elles offrent un instrument de domination et de destruction. Au Charles, un refuge illusoire et aliénant. Les valeurs sociales ont inversé leur fonction primitive. Au lieu d'assurer la survie de l'espèce et son bonheur, elles participent de son malheur et de sa dégénérescence. Instituées pour le triomphe du bien, elles génèrent le mal qui s'est peu à peu insinué au cœur du système. La connaissance ne mène plus vers la lucidité, mais à l'aveuglement subi ou consenti. » Et cette analyse de Joël Mani, qui date de 1987, fonctionne aussi pour notre film 20 ans plus tard. Paul Gaudens, se sert en effet dans la séquence de la librairie des livres comme une arme ou un gant pour lancer un camouflet à son adversaire. Il sait à quel point son adversaire se sert de son statut respectable d'écrivain et des mots pour cacher une nature monstrueuse et perverse. Contrairement à lui, lance-t-il à Gabriel en sortant de la librairie, moi je suis honnête, lui c'est un poseur, un tricheur. Mais au final, il va aussi se laisser corrompre. Et c'est par une lettre qu'il va annoncer à la fin du film qu'il quitte Gabriel au moment de son divorce. Quant à Charles, Gabriel est conduit et déçu, lui rappelle le mensonge que constitue la particule « saint » de son pseudonyme littéraire. De même qu'à l'occasion, elle lui reproche, lors de leur première rupture, après leur première nuit passée ensemble, de radoter et de n'utiliser que les mots des autres. Charles, d'ailleurs, emprunte tellement les mots des autres que lorsque son ami lance un axiome sur la réussite de son livre, dont il a appris le succès par un journal, il croit à tort que c'est de lui. Gabrielle, quant à elle, subit la soumission de cet écrit, dont elle est aux ordres. C'est par un écrit lapidaire que Charles lui donne son premier rendez-vous. Lorsqu'il veut se faire pardonner, Paul vient offrir en personne un bouquet de fleurs, tandis que Gabrielle court rejoindre Charles, qui glisse un mot laconique pour lui ordonner de le rejoindre. Gabrielle, de même, a une relation fétichiste avec le livre qu'elle associe à Charles, mais aussi au souvenir de son père. Elle caresse ainsi discrètement la photographie du livre de Charles lors de son premier rendez-vous avec Paul. Et elle les jette aussi de manière symbolique dans le lit de Charles lors de leur première rupture. Le premier présent de Charles est de même un livre érotique, La femme et le pantin. Leur premier baiser est donné hors champ, pendant que la caméra cadre le titre du livre que Gabriel vient de poser, Manuel de civilité à l'adresse des jeunes filles, comme répondant de nouveau à un impératif de soumission par l'écrit. L'acte d'écriture engendre ainsi une requête d'ordre sexuel. La librairie du tramway jouxte dans le premier plan général l'affiche d'une publicité érotique. Et dans sa garçonnière de même, Charles demande à Gabriel, en guise de café, de passer sous la table pendant que lui continue d'écrire. Si la lettre corrompt les relations, elle est néanmoins un agent révélateur des situations. Toutes les rencontres cruciales, nous l'avons vu, se font dans le milieu de la littérature, y compris le meurtre de l'écrivain à l'occasion d'un gala en son honneur. C'est dans la librairie que Paul, lors de la lune de miel à Lisbonne, dit être tombé amoureux de Gabrielle. Et c'est bien souvent en lisant que les personnages assènent une vérité. Charles évalue le succès de son livre par la lecture du journal. Paul avoue pour la première fois sa haine de Charles en lisant un article de journal qui en fait mention. L'écrit, enfin, fonctionne comme un commentaire, souvent ironique des situations dont il souligne les coïncidences. Lorsque le directeur de la chaîne propose pour ses compétences une promotion au détour d'un couloir, les affiches à l'arrière-plan projettent les désirs inavoués de chacun des personnages. Le plan d'évacuation du cinéma et théâtre souligne la confusion du directeur entre son désir qu'il peine à cacher et le milieu professionnel dans lequel il évolue. Du côté de Gabriel, l'affiche de film « Une histoire d'amour » explique les raisons pour lesquelles, accaparée par son histoire naissante avec Charles, elle ne parvient ni à décoder les allusions de son chef, ni même à profiter de cette promotion. L'écrit sur les livres remplit la même fonction. Nous l'avons vu avec le manuel de civilité. Il en va de même lorsque, dans la librairie, la mère de Gabriel conseille la Madone assassine d'Andrea Pinkett, un journaliste italien sataniste qui raconte les aventures amoureuses d'un séducteur milanais grotesque. L'écrit de nouveau fonctionne comme un commentaire ironique de Chabrol sur la situation paradoxale de la mère, à la fois protectrice et doublement assassine, puisque c'est elle qui initie les rencontres de sa fille avec les deux hommes qui la pervertissent. Chabrol, ainsi, à travers ses substitutions sociales par rapport aux faits divers initiales et cette mise en scène de l'écrit, le généralise ainsi, mais dans sa dimension la plus perverse, stéréotypée, industrielle et machiavélique. Au cœur de cet univers littéraire et médiatique, le personnage de Gabriel, jeune et vierge, qui n'ouvre jamais les livres et baigne malgré elle dans ce milieu, fait figure de victime idéale dans un conte aux allures de parabole. Tout le film est en effet raconté à la manière d'un conte, à commencer par le générique de début, qui nous mène de la ville à la forêt jusqu'à l'antre de la bête, en suivant une route, métaphore du récit. Ce récit s'ancre dans le littéraire, celui des contes populaires, et prend aussi sa source dans l'écrit des cartons du générique, annonçant le nom des acteurs, puis dans l'écrit des livres du coffre, édité chez Seuil, transmis de main en main jusqu'au véritable Seuil de celui que l'on surnomme Marquis de Carabas, qui, au terme du générique et de l'entrée dans la fiction, s'incarne en la personne de Charles, bien en forme, constate l'éditrice. Charles n'est ainsi pas le seul à faire l'objet d'une telle entrée dans le récit. La métaphore de la route est aussi convoquée pour la première apparition de Paul, comme elle le sera pour Gabriel, mais suivant des modalités différentes, puisque le point de vue n'est plus celui de l'éditrice qui apporte des livres, mais celui de Paul en amorce, conduisant de nuit de manière brusque et frénétique sa voiture, qu'il compare plus loin à un cheval, jusque devant le manoir familial dans lequel on s'interpelle à l'ancienne à coups de très chère mère. Mais dans cet univers médiéval, les lettres sont éparses et unitaires. Elles ne produisent pas de sens, à l'instar des lettres du Scrabble que les membres de la famille manient sans former aucun mot visible. Entre le palais de Barbe Bleue, décoré de photographies de corps de femmes, et le repère des loups de Paul, Gabriel de Neige, qui croque une pomme dans la séquence intermédiaire et écoute avec gourmandise le récit de sa mère sur Charles Saint-Denis et son goût des bonnes choses, constitue l'objet de leur quête, que le titre « La fille coupée en deux » annonce funeste et sanguinolente. Dans le film, Gabriel, autre Blanche-Neige, se fait effectivement dévorer, alors sur plan symbolique, par la bête qui se repère de sa chair avant que Paul ne le tue, puis abandonne la belle en pâture aux journalistes. Mais grâce à la magie de l'oncle et magicien Merlin, la fille coupée en deux reprend forme sur la scène du théâtre de la Renaissance. Et cet hypotexte littéraire populaire colore l'ensemble du film. Les répliques des personnages sont truffées de références à l'univers des contes. Alors, il est question de la maquilleuse Sandrine qui a des doigts de fée. La femme de Charles prend congé de son mari en lui disant « pour mieux te retrouver, mon enfant », en prenant la place du loup, comme dans le conte du Chaperon rouge. Dans le bar échangiste, c'est Charles qui est comparé à un loup, dont on ne voit que la queue. Paul, il est comparé au prince charmant de la Belle au bois dormant, qui pourrait revenir réveiller la belle. Et Gabriel lui-même s'amuse un peu de ce côté chevaleresque de Paul, en disant, tout en enfourchant son scooter, qu'elle a son propre cheval. Toutes ces références véhiculent avec elles leurs connotations et allusions sexuelles, qui sont aussi celles des contes. Mais la gageure de la mise en scène de Chabrol est d'à la fois multiplier dans le langage ses allusions avec la plus grande crudité et perversité à l'égard de Capucine qui dit connaître l'avocat par tous les bouts. Et en même temps, il prend le parti d'une image extrêmement chaste, car aucune scène sexuelle n'est montrée à l'écran. Chacune d'elles se déroule dans un hors-champ au profit du monde de l'écrit et du littéraire qui seul reste à l'écran, ce qui associe pleinement le monde de l'écrit et celui du sexe. Et tout cela participe à rendre la frontière encore plus floue entre la morale et l'esthétique. L'ambiguïté, en effet, règne à tous les niveaux. À l'instar de la femme de Charles qui se comporte comme le loup. Les héros dans ce conte de Chabrol sont tous ambigus. Laët Charles, auteur de L'absence de Pénélope, se compare implicitement au héros Ulysse, mais il s'en distancie à la fois en évacuant toute finalité morale à son voyage, à travers notamment cette absence de Pénélope, fidèle épouse, et même par rapport à ses citations, notamment des Essais de Montaigne, où il dit que « je sais bien ce que je fuis et non pas ce que je cherche ». La question des valeurs et de la morale est donc à la fois centrale dans l'univers chabrolien, mais cette morale est variable. Pour Chabrol, qui s'exprime d'ailleurs à ce sujet dans le making-of du film, les prétendues valeurs ne valent rien, puisqu'elles sont variables d'une société à l'autre. Il est donc plus intéressant, plutôt que de les figer, je le cite, d'élargir le champ de la connaissance. Et ce mélange entre la réalité, la littérature et l'univers du conte permet véritablement de brouiller cette frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre l'animalité et la civilité. Et en toute logique, ici, l'hypotexte religieux subit le même traitement. Cette ambiguïté, en effet, va affecter les valeurs que chaque héros masculin prétend défendre. Le conflit entre Charles et Paul autour de Gabriel illustre en effet une sorte de combat entre deux ordres, l'ancien et le nouveau monde, deux mondes qui eux-mêmes ne sont ni lisses ni exemptes de nombreux paradoxes. Charles incarnerait ce nouveau monde par son succès littéraire au présent, qui lui assure une forte notoriété dans la ville de Lyon et lui permet d'obtenir la plus belle table au restaurant pour lui et ses proches, place qu'occupait la famille Godin savant. Mais Charles, en même temps, se caractérise par sa vieillesse, son rapport ambivalent à la sexualité et au plaisir. Ainsi que le souligne Capucine dans la librairie, on sort pour lui de bonnes bouteilles parce qu'on le pense fin gastronome, mais en fait, il ne sait même pas cuisiner. Sur le plateau télévision de même, lui-même se pose cette question des valeurs, puisqu'il se demande si la société française se dirige vers le puritanisme ou au contraire la décadence. Il aime ainsi se décrire comme un écrivain solitaire qui vit une vie de nonne, et en même temps on voit bien que dans le bar Pince-Fesse et dans le club échangiste, il est loin de cet idéal sacré. Paul, quant à lui, représenterait l'ancien monde, celui de la bourgeoisie industrielle des laboratoires Gaudens, générateur d'emplois dans tout le bassin. Mais à l'image, c'est plutôt la jeunesse, pour ne pas dire la puérilité, qui caractérise Paul. Il se comporte comme un enfant gâté, par ses remarques, il se ronge les ongles, par son absence de retenue, par sa volonté de jouir de tout immédiatement et de ne pas supporter qu'on lui résiste. Et surtout par son absence de sexualité. Son premier réflexe, c'est quand même d'appeler sa mère quand Gabriel lui dit qu'elle veut bien l'épouser. Et de plus, Paul est toujours accompagné de Franck, une version masculine et juvénile de la nourrice, qui le suit partout, rattrape ses bévues et lui apprend les bonnes manières. Il lui rappelle, Paul, réponds à ta mère, etc. Chacun ainsi va blâmer la morale de l'autre. Paul, au sortir de la librairie, critique la supercherie de Charles, qui n'est pas ce qu'il montre. Charles, au restaurant, lui, au contraire, juge que le comportement du père de Charles, pas très moral, parce qu'il a été accusé d'avoir abusé avant sa mort de très jeunes filles. Seules les mères, au nom symbolique de Marie et Donna, s'abstiennent de tout jugement. Et font figure de sainte. Même si elles ne sont pas exemptes, elles n'ont plus d'ambiguïté. Marie, la mère de Gabriel, est aussi une madone assassine, et Donna, la femme de Charles, qui se transforme en loup dans le bar Pince-Fesse. Et c'est Donna, elle-même, s'abstient au restaurant de juger qui que ce soit. Et on pourrait dire que dans ce film, hein, les hommes sont du côté de la parole et du jugement et de la morale, quand les femmes seraient plutôt du côté de l'éthique. Quand Gabrielle est sur le point de se marier, tout en avouant à Charles qu'elle l'aime encore, elle lui laisse la possibilité de revenir, de s'amender s'il quitte sa femme. Et lui, ce qu'il trouve à lui répondre, dit « je ne peux pas, j'ai rien à lui reprocher ». On voit bien que ce jugement va motiver tous ses gestes. Et cette ambiguïté qui est générale à tous les niveaux a pour finalité dans le film de Chabrol de relativiser le bien fondé des normes sociales et des valeurs qui souvent varient et bien folles et qui s'y fient, pour reprendre l'adage. Ces valeurs bourgeoises se fondent sur celles de la chrétienté, qui sont elles aussi perverties. Paul et Charles ont en effet pour point commun des abus sexuels commis dans un cadre religieux. Ceux du père Grégorio qui mettait la main dans le slip de Charles, ou ceux du précepteur Filippo, on l'apprend dans la scène du restaurant, pour Paul qui lui apprenait une morale toute relative. Le sexe va ainsi colorer et pervertir la morale comme la religion. Alors les coucheries coquines entre Gabriel et Charles, qui est comparé au marquis de Sade et qui la surnomme « mon ange », tout en la soumettant à ses jeux pervers, se déroulent dans un appartement au dernier étage, sur la sonnette duquel est inscrit le nom « paradis ». Le catholicisme ici côtoie comme l'écrit le monde du sexe. Quand ce n'est pas l'écrit qui remplace à l'écran la scène de sexe qui reste hors champ, c'est le motif religieux qui joue ce rôle, à l'instar de la deuxième nuit que Charles et Gabriel passent ensemble, suggérée par un fondu enchaîné sur le clocher d'une église. Les pères de l'église, comme les pères de famille dans ce film, font défaut. En mettant en scène une jeune fille qui s'amourage d'une figure paternelle pervertie, Chabrol égratigne ici la figure du père et les valeurs transmises par la filiation. Cette mise en crise généralisée de la filiation bat son plein dans la scène de la librairie, lorsque notamment Gabriel imagine que Charles pourrait tuer sa mère pour un Beaumont. À cet instant précis, la main de Capucine se pose lascivement sur son épaule alors que Charles avoue en chuchotant à Gabriel « j'ai tué ma mère ». Outre la lecture morale que l'on peut faire de cette scène en considérant le matricide comme la perversion ultime de Charles qui ne respecte aucune femme, pas même sa mère, on peut aussi considérer dans cette métaphore scripturale que tuer la mère, c'est tuer toute possibilité de création. Ainsi que l'écrit Steven Bernas dans « L'écrivain au cinéma », l'écriture est une structure d'investissement qui fait face au manque et donc au désir de l'autre. Ce dont témoigne le geste lascif de Capucine. Mais au cinéma, l'écrivain, écrit Steven Bernas, est une figure du passé simple, du déjà mort. Le livre est alors le fétiche d'un désir non castré de vivre Eros encore et toujours à travers la lecture d'un livre. Or, dans le film, Charles n'écrit pas, si ce n'est des messages lacunaires, qui rendent compte de son désir du corps de l'autre. Face à Charles, vieil homme au désir insatiable, dont l'autorité, au même titre que les figures paternelles, est mise à mal, lecteur des livres des autres qu'il cite, incapable de ne créer ni de bons mots, ni de forger des idées neuves, Gabriel, au prénom angélique, figure l'écriture cinématographique joyeuse. La parole vivante, celle qui s'incarne dans la chair, celle que l'on coupe en deux, mais qui ressuscite, suivant le principe nietzschéen, que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est sur ce récit évangélique des formes que je souhaiterais terminer dans un troisième temps. Il nous enjoint de passer d'une morale de l'écrit à une éthique des lettres. Alors, ce que je retiens de la notion d'éthique, c'est son sens premier qui l'oppose à la morale. La morale qu'on entendrait comme un ensemble de règles figées, quand l'éthique, elle, serait, qui en est le principe régulateur, serait du côté de l'action. J'en retiens aussi sa dimension esthétique, qui consiste à tirer de la réalité des valeurs normatives. À travers le récit en image de ce fait divers, Chabrol critique l'ordre du discours qui enferme le personnage de Gabriel, Miss Météo, dans un cliché au profit d'un univers de mots qui serait autant de signes constituant pour tout un chacun une forêt de symboles à habiter à hauteur de son imagination. C'est le rôle que jouent les ambiguïtés dans le film et c'est le chemin que parcourt le personnage de Gabriel au fil de ses expériences amoureuses et dans la manière dont elle est représentée à l'image. La manière dont est représenté ce personnage, victime de forces antagonistes, qui tente soit de soumettre son corps pour l'écrivain Charles, soit de soumettre son apparence et son être social pour le notable Paul, rejoue le mystère évangélique de l'incarnation, mais sécularisé par le cinéma, qui, commente Luc Banchéry analysant le mystère chez Godard, annule toute idée de transcendance qui coordonne le sens au profit de l'immanence de l'événement, irréductible et cependant pleinement renouvelable. Cette lecture est permise par la dénomination des personnages d'une part, Gabriel, nom de l'ange de l'Annonciation, et sa mère se prénomme Marie, par l'hypothèque religieuse dont on a parlé, par la récurrence enfin du motif de l'ange, surnom donné à Gabriel, mais aussi cadeau de Gabriel à Paul pour le remercier de sa protection. Mais au lieu d'une parole qui s'incarne dans le corps christique du récit biblique, Chabrol, dans un syncrétisme religieux, culturel et temporel, lui préfère la figure de l'ange sans sexe. Dans la lignée de sa critique du logocentrisme, Chabrol évacue toute idée de transcendance au profit de l'immanence, qui régit aussi, nous l'avons vu, la logique du fait divers. Dans ce mystère laïque, Gabriel est ainsi à la fois l'ange qui annonce, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps à la télé, celle qui, comme la Vierge Marie, dont la virginité est paradoxalement la cause d'une maternité exceptionnelle, elle est le lieu de l'alliance des contraires, à travers sa relation antinomique avec un vieil homme de l'univers des lettres et de l'écrit, puis un jeune homme de l'image et de l'oralité. Et elle est enfin le corps supplicié du Christ. Gabriel est crucifié dans le sens figuré par la cruauté de la société, qui la brise en lui imposant par ses règles morales et ses jugements un carcan qui ne lui permet pas d'être ce qu'elle est, d'exprimer son sens, et au sens propre par le découpage magique de son corps dans la dernière séquence, qui en même temps énonce l'idéologie de l'ensemble du film. Alors ce mystère trouve un équivalent sur le plan plastique. L'univers de Charles se caractérise par la couleur rouge, qui est celle du générique et des barres libertins, symbole du désir sensuel, ainsi que par le mouvement en spirale, celui de l'escalier qui mène à son appartement ou au second étage du bar échangiste, mais aussi celui langoureux et enveloppant du personnage et de la caméra autour de Gabriel pour ponctuer chacune de ses avancées amoureuses. L'univers de Paul, quant à lui, est celui de l'absence de couleur. Le noir de la nuit dans la première séquence où il apparaît et le blanc des intérieurs à fleurs dans lequel il vit, comme celui du mariage qu'il lui propose. Paul se caractérise par des mouvements brusques en zigzag qui sont ceux de sa voiture ou de son avancée dans la salle où a lieu le crime. Au centre, le corps de Gabriel, dont le patronyme évoque le conte mais aussi la blancheur de la neige, est fétichisé par le surcadrage de divers écrans en plan fixe. À l'instar de sa première apparition devant un fond vert devant lequel elle officie en Miss Météo, qui permet de faire en temps réel ou a posteriori toutes les incrustations que l'on veut, elle est un corps vierge sur lequel va s'imprimer l'action de chaque personnage. Et la progression plastique de ce récit des formes dans lequel chaque protagoniste va marquer la jeune fille de ses codes visuels est scandée par des fondus au noir. Il y a des fonds noirs qui viennent à chaque fois scander une sorte d'évolution dans cette évolution formelle. Dans le premier mouvement, la rencontre dans la librairie entre Charles et Gabriel, où elle est cadrée naturellement par le cadre de la fenêtre derrière elle, et où les deux personnages adoptent des mouvements enveloppants, est suivie d'un échange plastique et sémantique entre leurs deux mondes. Gabriel, dans le bureau de son patron, vole un livre pendant qu'il est au téléphone, puis met fin à la discussion. Un fondu enchaîné associe les deux univers, renforcé par le raccord iconique de la lampe en amorce qui barre le cadre. À son bureau, Charles met à son tour fin à une discussion au téléphone pour chercher la télécommande et regarder Gabriel à la météo. Lors de la deuxième rencontre dans la maison aux enchères de la presqu'île de Lyon, Charles achète un exemplaire de La femme et le pantin de Pierre Luys. Et c'est cette fois le livre qui concentre les deux mondes, celui écrit de Charles, dont l'auteur est comme lui érotomane, et celui des images de Gabriel qui dit regarder que les images dans les livres, hein, et qui peut donc, à défaut de lire le livre, voir la nature du désir que Charles lui porte en regardant les images. Après leur première nuit d'amour, à la suite de laquelle Charles lui promet de l'initier quand elle s'excuse de sa maladresse, Gabriel est sur le plateau du télévisé, sur un fond vert, mais en plan plus large. On voit désormais le motif floral apparaître, qui est celui de Paul. Et la météo, en même temps, fonctionne comme une projection mentale de son bien-être, parce que là, il est question d'orage au moment où ils viennent de rompre. Après la première réconciliation, on repère des mouvements en spirale qui vont s'accentuer et fédérer les deux personnages, en même temps que les personnages semblent tomber corporellement dans le même vertige de l'amour. Dans le même temps, la mère de Gabriel conseille la lecture de la Madone assassine, dont elle dit que l'écriture est joyeuse et bouge. On voit aussi que peu à peu, le corps de Gabriel reprend aussi le motif des rayures rouges, des rayures qui étaient celui des draps. Donc on voit une sorte de confusion un petit peu plastique au fur et à mesure du film. Dans le troisième mouvement, Gabriel devient Charles. C'est-à-dire qu'elle se comporte définitivement comme une bête, dont elle mime le comportement en se déguisant en paon, symbole de l'écriture baroque, et en marchant à quatre pattes. Dans le même temps, Charles dit s'ennuyer dans l'écriture. Il dit prendre les mots des autres. Gabriel lui conseille de changer de femme. Charles alors l'amène dans un bar d'échangistes. Et c'est cette fois la tenancière qui est habillée avec la robe rayée, tandis qu'eux empruntent tous deux l'escalier en spirale qui monte. Dans le quatrième mouvement, c'est celui de la rupture et de la dépression. Le décor du plateau télévisé est envahi par la couleur rouge, pour l'émission de cinéma, la cerise sur le gâteau, comme pour souligner la soumission totale du corps de Gabrielle au désir des hommes, pendant qu'elle commence à prendre un discours plus littéraire. La porte du paradis, dont la clé ne fonctionne plus, est désormais filmée en plongée, et elle annonce le déclin de la ligne narrative autour de Charles. Les rayures vives des tissus perdent leur couleur au profit du beige, qui annonce l'avènement de Paul. Le graphisme cède le pas au motif floral sur les murs. Gabriel est passé de l'autre côté du miroir et se retrouve dans l'image qui ornait initialement le mur de l'appartement de Charles, le tramway descendant les rues de Lisbonne. Je vais accélérer peut-être. Dans le cinquième mouvement, qui commence après l'annonce que Paul à sa mère de son mariage, c'est désormais la voiture décapotable offerte par Paul qui est rouge, pendant que Charles, lui, fait irruption dans le monde blanc de Paul en surprenant Gabriel qui essaye sa robe. Les rôles s'inversent par rapport à leur première rencontre dans les loges du plateau télévisé. C'est désormais elle qui est devant le miroir et lui qui est au seuil de la porte. Dans le sixième mouvement, le sixième mouvement marque une avancée dans la profondeur de l'image, que le couple, cette fois, peuple de leur oralité, alors que l'image illustrait le monde de l'écrit dans l'appartement de Charles. Paul et Gabriel sont désormais à l'intérieur du tramway de Lisbonne qui les fait voyager. Le motif floral passe du mur à sa veste et la couleur rouge est celle du lit où la liaison est consommée. Mais le fantôme de Charles hante Paul, de même que lui habite son image. Gabriel lui raconte tout ce qu'il veut savoir sur ses détails sexuels, mais cela nourrit sa haine et son dégoût pour elle. Paul se met à son tour à la juger, alors que Saint-Denis est dans toutes les bouches. Lors d'un après-midi mondain au château, il est question de son dernier livre, L'absence de Pénélope, et de son intervention au prochain gala. Paul veut que Gabriel porte la robe rouge qu'il lui a offerte, et en tuant Charles, il tue aussi symboliquement Gabriel qui porte sa couleur. Il le tue au moment même où il est question de l'humanité de Charles, lui la bête, alors que Paul joue le rôle du lion prédateur dans cette scène, suggéré par le motif architectural à l'arrière-plan. Dans les mouvements suivants, de plus en plus courts, la froideur gagne tous les personnages féminins, tellement froid que l'avocat en frissonne. Et dans le making-of, Chabrol explique que cette froideur des personnages féminins dans ses films vient de ce qu'elles contiennent en elles, cette animalité qui est mal vue dans la société. Parce que c'est ce dont il a été lui-même témoin dans la société bourgeoise, dont il est issu et qu'il connaît le mieux. Cette froideur est aussi celle de Gabrielle, désormais habillée de noir, qu'elle quittera dans la dernière séquence en exhibant cette animalité. Son amour doit désormais, pour le moment, s'ériger en accusation contre la passion de Charles pour sauver les apparences de Paul. L'univers des lettres, à travers celle envoyée par son oncle Denis, surnommé Merlin, change de main. Gabrielle décide de dire la vérité, même si elle ne sera jamais que la sienne, et même si elle provoque les jugements de la place publique. Le journal télévisé se fait alors le relais audiovisuel de cette morale publique et du fait divers qui place visuellement le corps de Gabrielle entre ses deux prédateurs. Le journaliste Benoît Charpentier qualifie les révélations de Gabrielle de nauséeuses, tout en finissant sur un mauvais jeu de mots, consoeur que l'on croyait blanche comme de neige. Gabrielle, au volant de sa voiture, est désormais la seule conductrice du rouge, couleur du désir de Charles, et d'une voiture, attribut de Paul, qui se met quant à lui à écrire des lettres pour demander notamment le divorce. La fin du film libère l'univers féminin. La mère de Paul coupe de véritables fleurs, et Capucine vient parler pour la première fois seule à Gabrielle en reprenant le geste protecteur de Charles qui lui caressait la joue. Au gré de ce récit des formes, le film a donné chair au squelette du fait divers, de la même façon que le personnage de Gabriel a pris peu à peu possession de cet écrit, ou plutôt s'en détache pour qu'il ne l'enferme plus dans un cliché. D'objet du désir, elle est devenue sujet de ce désir. En conduisant la voiture rouge, c'est aussi la conduite du récit qu'elle reprend. Et les deux dernières séquences racontant cette renaissance fonctionnent comme un épilogue qui donne tout son sens à ce récit des formes. Mais dans le domaine laïque, ce mythe de l'incarnation emprunte son vocabulaire au monde de l'alchimiste qui transmute les valeurs. Dans le making-of du film, Chabrol explique avoir d'abord pensé au sujet, puis au titre et enfin à sa dernière séquence, qui structure véritablement l'ensemble du film et donne au film sa portée idéologique. Elle donne une indication métapoétique sur le travail plastique du cinéaste, sur le corps de Gabrielle, qui finit coupé en deux comme elle l'a été par la société, mais qui ne déchoit pour autant pas. Le signe de cette renaissance dans le théâtre du même nom est cette larme exprimée pour la première fois par Gabrielle, qui assume pleinement son être corporellement, mais aussi intérieurement. Au terme de ce film, le corps de Gabrielle s'est en effet enrichi de toutes ses expériences. Elle fédère à elle seule toutes les trames et forces narratives. Elle devient à elle seule une véritable figure poétique que Chabrol, à travers son alter ego l'oncle Merlin, nous livre, riche de ses ambiguïtés et de ses contrastes. Les deux dernières séquences reprennent ainsi tous les motifs du film. On nous montre d'abord les coulisses du spectacle, qui va reprendre dans un ordre confus les principaux motifs du film. L'oncle est une figure paternelle, comme Charles. Il se prénomme d'ailleurs Denis, mais il abandonne la fausse particule Saint. Il est comme lui un artiste, mais il officie dans l'univers de l'image et du spectacle, dans celui surtout de la magie, du pharmacone. Pharmacone qui fait aussi allusion au domaine de compétences de Paul, issu de l'industrie pharmaceutique. Merlin amène comme Charles Gabriel dans un hôtel tapissé de rouge, mais un rouge plus cramoisi. Et de plus, il lève aussitôt toute ambiguïté auprès de la réceptionniste, tout équivoque concernant ses intentions qui ne sont cette fois pas sexuelles, mais qui restent malhonnêtes. Cet hôtel où a lieu le spectacle se prénomme donc le Théâtre de la Renaissance, et c'est en effet une renaissance à laquelle nous assistons sur scène par la prestidigitation de l'oncle Merlin, qui avait envoyé une lettre à Gabriel, comme Paul le fit par la suite. Gabriel souhaita à ce moment qu'il puisse faire disparaître tout, mais Merlin ne fait pas tout disparaître, il transforme, et ses lettres ne sont pas figées. Gabriel dit ainsi avoir eu du mal à retrouver sa trace, parce qu'il bouge beaucoup. Son écriture est donc elle aussi joyeuse, comme le roman « La Madone assassine », mais elle passe cette fois par la prestidigitation des corps. Le spectacle de magie requiert tout le décorum d'une transformation alchimique de la matière. Elle nécessite un silence total, condition des rêveries poétiques. Il fonctionne comme une métaphore de l'ensemble du film. Le corps de Gabriel est comme son être tout au long du film, coupé en deux. Mais la magie opère et à la froideur féminine succède ici l'expression vraie du sentiment et de la part animale de la femme qui s'expose sur la scène publique. Gabriel verse pour la première fois une larme et au niveau visuel, tous les motifs sont convoqués et projetés de manière chatoyante et mouvante, non plus en surimpression sur le corps de Gabriel, mais cette fois derrière elle sur le décor. Gabriel, elle, se relève et le rouge et le beige œuvrent désormais en harmonie. Aucun cadre ne vient enserrer son corps, désormais libre, au devant de la scène. Et un corps qui côtoie les cris du générique, d'un générique déroulant qui glisse sur elle. Quand dans le générique de début, les cartons venaient marteler sur un fond rouge le nom des acteurs êtres de papier dans un décor sans corps. Ce spectacle de magie fédère autour de l'imagination matérielle que le corps de Gabriel symbolise, toutes les imaginations à l'œuvre dans le film, l'imagination formelle de l'écrit et de la monstration, et l'imagination dynamique du pharmacon. Pour qu'elles officient ensemble, il faut à la fois la violence de la scission et l'amour qui rassemble les tensions antinomiques. En inscrivant dans son film le fait divers dans un univers du sens qui, au régime fini de la signification, oppose très nettement le régime infini de la signifiance, Chabrol œuvre en alchimiste, comme les surréalistes en leur temps qui ouvrirent au fait divers l'espace autonome du langage. Pour conclure, je dirais que dans La fille coupée en deux, la modernité de Chabrol consiste, comme pour les surréalistes face au logocentrisme, à décloisonner le moral, l'intellectuel, l'artistique et le politique. Telle est l'éthique des lettres qu'il prône et qui consiste à ouvrir le discours au monde infini de la signifiance, à l'image de son syncrétisme culturel. Et ce, pour partager le geste poétique à l'ensemble des spectateurs que nous devenons tous au seuil du générique, recevant le corps à la fois angélique et animal de Gabriel, véritable figure poétique, valorisée, enrichie par les multiples expériences du film, qui constitue autant de strates sémantiques qui viennent troubler ici le corps de Gabriel, par ce jeu des forces contraires. Ce que nous apprend cette parabole filmique, ce n'est pas que les lettres sont une valeur absolue qui supplanterait l'image, mais que les lettres doivent se nourrir des images pour se troubler, autant que les images doivent se nourrir des lettres, afin de susciter l'imagination poétique. Tel est le sens de cette éthique des lettres qui repose sur une libre circulation du sens et un partage du sensible qui, selon Jacques Rancière, fait devenir beau l'ordinaire comme trace du vrai. Là-dessus.